en ce mercredi 20, je suppose, c'est le 20, oui, 20 mai. J'ai vu le temps de midi à la télévision, je l'ai allumé pour avoir quelques nouvelles et je voyais des typhons effrayants sur le Bangladesh. Et on a vu, ma femme et nos filles, on a vu des enfants, des familles qui étaient là, qui ne savaient plus où aller, qui étaient assis et qui étaient effrayés, sans doute qui priaient ou en tout cas qui étaient terrorisés, angoissés et qui avaient... on annonçait une vague de 5 mètres de haut, alors que la plupart du Bangladesh est à un niveau 0 à 5. Et vous savez que le Bangladesh a déjà beaucoup souffert du coronavirus, parce que toutes les usines qui travaillent là, où les gens travaillent pour 25, 26 euros par mois, à raison de 6 jours fois 14 heures, 15 heures, pour produire nos textiles, produire nos souliers, etc., toutes les commandes ont été interrompues. Tout est, et on n'a pas rétribué ces gens, ils n'ont pas de chômage, ils n'ont rien. Et donc la misère est totale là-bas. Maintenant voilà les typhons. Et je vous demande, chers amis, de prier pour ce peuple. Je vous demande de prier pour ce peuple. Nous avons reçu pendant des années des tas de personnes de tous les pays chez nous. Maintenant on a tellement bien verrouillé l'Europe qu'ils n'arrivent plus jusqu'à notre porte. Avant ils arrivaient, ils se le disaient l'un à l'autre. Et qui plus est, si on le faisait encore, on serait dénoncé parce que le climat a changé et les signes de la haine de Christ pour moi sont là. On refuse d'aimer, l'étranger refuse d'aimer celui que Jésus aime, celui qui était nu, qui était affamé, etc. Vous connaissez bien Matthieu 25, verset 35 à 42. Ça, c'est ce drame au Bangladesh. Il faut vraiment que nous demandions une délivrance. Et vous savez que l'Inde ferme ses portes. Et toutes les minorités musulmanes qui étaient en Birmanie et qui ont été persécutées, qui se sont réfugiées au Bangladesh, vont encore être prises dans un nouveau fléau. Prions pour ces hommes et ces femmes qui sont des créatures créées à l'image de Dieu comme nous, quelle que soit leur religion. Aimons-les dans la prière, prions. Prions notre Dieu qu'il se passe quelque chose en leur faveur et que nos pays se remettent en question dans leur hypocrisie et leur iniquité. L'autre chose qui m'a frappé, c'était une émission sur des magasins de revente des légumes invariés ou en tout cas non conformes aux normes européennes. Et ces légumes, il y en a 10 000 tonnes en France qui sont rejetées. Et donc il y a des réseaux qui se sont créés pour vendre ces légumes qui ne rentrent pas dans le gabarit, dans les normes. Et 10 000 tonnes, ça me paraît effrayant. Et il y a quelques consciences qui se rendent compte que c'est pas possible de continuer comme ça. Et quand vous pensez aussi qu'il y a eu 3 trilliards de fabrication d'armes l'année passée, notre petit coronavirus nous effraie un peu, mais à côté de ça, le péché de l'Occident ne l'effraie pas. Et je pense que la colère de Dieu sera grande. C'est des avertissements que nous avons. On ne peut pas continuer comme ça. L'humanité est une grande famille. Et si Caïn a dit « Suis-je le gardien de mon frère à Dieu ?», il n'avait pas raison. Et personne n'a le droit, n'a pas de raison d'ignorer son frère sur la terre. Voilà, c'est des choses que j'avais à vous dire, je les ai sur le cœur. J'avais les larmes aux yeux, je ne peux pas m'empêcher de souffrir. Et ni ma femme, ni mes filles, et de tout ça. Nous sommes sur une terre où nous cherchons une patrie, une céleste patrie, qui viendra d'en haut, dans sa justice, dans sa sainteté, en Christ. Donc la fête de l'Ascension demain, c'est aussi un avertissement solennel qui va revenir. Nous en parlerons demain à 10h15. Maintenant, aujourd'hui, le sujet de mon message est ceci. C'est, vous rappelez que j'ai parlé du couple qui était là où on forgeait l'enfant pour son devenir, et que l'amour était obéissance à Dieu. L'amour envers Dieu est obéissance, mais alors dans le couple, comment cela se passe-t-il? Oui, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, de bien des manières. Moi, je pense que, au vu de tout ce que j'ai vu, que je vois, que je ressens, et je veux rappeler le grand principe biblique, c'est que le Christ est supérieur à nous tous. Il est préférable. Il est le premier par rapport au lien de sang, au lien de coutume. Et ça, chers amis, sachons-le, il est premier. Est-ce que le téléphone qui sonne, c'est normal? Est-ce que, sœur, vous entendez à Limoges? Vous entendez à Limoges? Allô, vous entendez?
Nono? Viens un peu voir, va.
Appel vocal de groupe manqué. Noémie? Noémie? Le groupe de Limoges est coupé. Ça arrive, elle dit. Excusez-moi, chers amis. Pendant que vous êtes sur Facebook Live, il y en a d'autres qui sont sur WhatsApp.
Non.
Quatre personnes de
Personne ne me
Limoges et
voit.
parfois, ça coupe.
Personne ne me voit.
Un peu dommage. Voilà. Le grand principe biblique, c'est que Christ est supérieur et préférable en premier par rapport à tous nos liens de sang, à nos coutumes. Et il faut faire attention, c'est ni le grand-père, ni la grand-mère, ni le clan, ni la tradition, toutes les us et coutumes que nous avons hérités qui doivent commander le couple chrétien. On doit avoir du respect pour les racines d'où on vient, mais ce qu'il y a, il ne doit pas y avoir de domination et d'emprise. C'est Christ qui est notre directeur. Le deuxième point, c'est que Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la famille, y compris de son épouse. Ça, c'est très difficile à l'heure d'aujourd'hui. C'est très difficile à accepter. La loi belge, la loi française, beaucoup de lois européennes contredisent cela. Maintenant, il y a parité et les résultats sont devenus ce qu'on en voit, le chaos familial et social. La charpente de la famille est disparue, le toit s'est écroulé et la tempête est venue. Le principe moral qui doit conduire nos choix est celui-ci. Qu'est-ce qui est le meilleur pour sauvegarder la foi vivante de la famille, dans la famille? Qu'est-ce qui est le meilleur pour sauvegarder la foi vivante de la famille et sa croissance? Pour sauvegarder sa paix et ses fruits, assurer ses fruits. Mais je pense que c'est de respecter la parole de Dieu, telle qu'elle a été promulguée, telle qu'elle a été donnée. Et ce n'est pas de la mettre à notre sauce du XXe siècle. En ce sens-là, on peut dire que chez nous, chrétiens évangéliques, il y a parmi nous des fondamentalistes, dont je suis, mais tous les évangéliques ne sont pas fondamentalistes. Loin s'en faut, j'ai déjà circulé pas mal, et j'ai vu un peu de tout. C'est assez étonnant d'ailleurs. En tant que pasteur et en tant qu'ancien prêtre, j'ai connu souvent des familles chrétiennes désunies, des familles déchirées, depuis de nombreuses années. Je ne pouvais que me taire lorsque je les visitais. Je me taisais au moins durant un certain temps. Autrement, on m'aurait éjecté, je n'aurais pu rien faire, rien dire et rien apporter de positif. Je ne voulais pas développer l'agressivité ou le complexe d'infériorité, le complexe du persécuté. Et donc je préférais me taire et regarder les comportements aveugles, obstinés, égarés de beaucoup. J'avais le devoir de ne pas critiquer, j'avais le devoir d'être présent, d'écouter, de prier, et puis d'encourager. Je vous invite à faire la même chose pour tous les couples que vous connaissez et qui se disent chrétiens et qui sont de mauvaises situations. Il faut éviter de culpabiliser. Mais donc, de l'autre côté, il faut éviter d'être laxiste, de laisser croire que tout est bon. C'est très difficile. Il y a eu des miracles. Certains chrétiens, après de longs écarts, de longues aventures scabreuses, parfois scandaleuses, se sont représentés aux réunions bibliques, aux cultes dominicaux, et ont sollicité une mise au point individuelle avec leur pasteur. Cela se fait aussi pour d'autres chrétiens en dehors de notre Église, autre part, qui n'osent parfois pas parler avec leur pasteur ou leur Église, ou parfois, souvent, il n'y a pas de pasteur. Donc, cette sollicitation existe. Il y a des personnes qui, après coup, souffrent de leurs égarements et recherchent une véritable lumière pour leur vie, et je m'en réjouis toujours. Il y en a d'autres qui abandonnent l'assemblée, font le tour de beaucoup d'églises, et parfois restent en couple, même si ça ne va pas bien, sans être en communion réelle, mais parfois ils se trahissent mutuellement, mais ils restent en couple, par intérêt pour le patrimoine ou pour les enfants, ou par culpabilité, peur de perdre le salut, etc. Les enfants sont à plaindre, parce que ces enfants souvent entendent qu'on maudit Dieu, on critique Dieu, on trouve des défauts à Dieu, on accuse Dieu d'être la source de toutes ces misères de couple. Et les enfants ont rarement la paix à cause de cela. Ils viennent au culte, aux écoles de dimanche, soit ils boivent comme un abreuvoir, comme une biche dans la source d'eau vive, ils puisent pour survivre et pour grandir, et ils échappent un petit peu au détriment que leur apporte leur famille, ou alors ils n'écoutent plus, ils sont déjà plus vraiment présents, et quelques temps après, quelques années après, ils s'écartent totalement. Donc, il faut faire attention. Nos familles chrétiennes, parfois, créent des troubles considérables parmi la jeunesse et vivent des troubles considérables. Ce n'est pas normal. Alors, cet état des lieux me fait penser à beaucoup de choses. C'est que les époux modernes ne connaissent plus leur mission. Ils ne connaissent plus les fondements du couple. Ils n'y ont pas été préparés suffisamment. Ou si ils ont reçu quelque chose, ils n'ont pas approfondi, ils n'ont pas cherché à le vivre. Donc leurs fondations ne sont pas réelles, et de manière réciproque, ils ont improvisé une vie de couple, avec une belle cérémonie de mariage, de belles paroles du pasteur au culte, mais voilà, le fond du fond n'était pas réglé, et le sens de la responsabilité profonde n'était pas là. Il y a toujours une possibilité de la grâce divine pour vraiment approfondir cela, se repentir et démarrer une nouvelle vie dans le couple. Et c'est toujours possible. Dieu est grand. Mais il faut savoir que pendant ce temps-là, quand on se débat dans les problèmes personnels, dans les tensions, les enfants grandissent. Et ils ne voient pas de modèle. Ils ne voient pas la paix de Jésus. Oui, ils entendent bien compris, au culte, etc. Et puis, ils voient rarement les couples lire la Bible ensemble. Ils voient rarement des échanges entre le papa et la maman sur des contenus bibliques, sur des points de doctrine, sur des paroles de Jésus. Il n'y a pas de complicité spirituel entre le papa et la maman. Ils n'ont aperçu qu'un désert aride. Donc l'enfant est devenu fragile, et ça prépare la racine de l'athéisme des enfants dans les familles chrétiennes. Ça prépare cette fragilité du milieu chrétien, prépare l'athéisme. Les écoles, la société, la télévision, etc., tout le reste va s'en mêler, et pas de problème, l'influence des amis, etc. Il faut développer entre l'époux et l'épouse des échanges. Il faut beaucoup développer les échanges. Il ne faut pas seulement se centrer sur le travail, sur les enfants, pour qu'ils réussissent matériellement et qu'ils aient un métier plus tard. Il faut se centrer sur la vie spirituelle de la famille, se centrer sur la vie commune, telle que Jésus la veut, et telle que Jésus veut la diriger surtout. Alors l'homme, l'enfant, ce sera une future femme, un futur homme, l'enfant a en face de lui deux êtres qui échangent et il ne voit plus le désert. Il voit une réconciliation qui se refait régulièrement à cause de l'Évangile. Il n'est pas dit qu'il sera chrétien à cause de cela. Mais plus tard, même s'il s'en écarte, il peut y revenir parce qu'il a vu un bon témoignage, un bon modèle. Il y a souvent des chrétiens qui font des métiers qui ne sont pas très positifs. C'est-à-dire, il leur est interdit de parler de Jésus, de confesser leur foi, même deux mots c'est de trop. Alors c'est que les chrétiens s'abstiennent de parler de Jésus et prennent l'habitude de ne plus en parler. Et c'est simplement en réunion biblique de l'église ou à la sortie du culte qu'on se parle un peu, et encore. On est très mal à l'aise devant les enfants, parce qu'on n'est pas un témoin vivant. Et l'enfant a appris que la société domine. Vous savez qu'il y avait des chefs religieux dans l'évangile de Jean qui avaient cru en Jésus, mais ils ne disaient rien, parce qu'ils avaient peur des responsables. Et dans Jean dit dans son évangile qu'ils ont préféré la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont choisi la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Je pense que réellement, quand on est jeune adulte, qu'on a un métier et qu'on voit qu'on va passer des années dans ce métier sans pouvoir avoir l'occasion de confesser sa foi, il faut changer de métier. Si on a un métier qui nous oblige à travailler tous les dimanches, à ne jamais être là dans l'église, ni aux réunions bibliques, il faut changer de métier. Ce sont des choix, il faut être radical. On ne sait pas où on va, on se met en prière. On demande à d'autres de prier, mais Dieu pourvoira. Et c'est cela la marche par la foi. Avoir la foi ne suffit pas. Marcher par la foi, c'est dépendre de Dieu. C'est mettre en pratique cette dépendance et il faut rechercher des situations où on peut vivre sa foi et la dire. Même si on c'est discret, même si on n'est pas là pour casser les pieds aux autres et imposer quoi que ce soit, mais qu'on puisse parler tout de même. Le chrétien n'est pas castré, il n'est pas châtré. Alors, on doit choisir de façon plus réelle, plus radicale, une vie où on peut confesser le nom de Jésus. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, « Si vous ne m'avez pas confessé, je vous rougirai de vous devant mon Père. » Et donc, souvent dans des couples, on a des situations matérielles confortables, ou en tout cas moyennes, moins confortables, et puis, on a un métier où on n'est jamais témoin de Jésus. Et quand on rentre chez soi, on ne peut pas rattraper toutes ces heures. Parce qu'on a un peu signé en bas de la page pour ne jamais confesser Jésus. Et le climat se détériore dans la vie intérieure, dans la vie interne. Et puis après, dans la vie sentimentale avec le conjoint. On en vient au pilotage automatique. On vit de manière automatique, sans profondeur spirituelle. Et puis, il vient une copine qui fait trémousser le mari et le mari s'en va. Ou on a un copain, un peu audacieux, qui est très, très adroit, qui fait des petites faveurs à madame quand monsieur n'est pas là. Et puis, à la longue, il a travaillé l'esprit de cette femme et elle s'en va. Et on a des couples dont on ne pensait jamais qu'il allait arriver un divorce, des couples qui explosent. Alors, à cause de ça, beaucoup d'enfants chrétiens, comme des enfants non chrétiens, sont insécurisés et acquièrent des problèmes de comportement. Et on les envoie chez les psychologues, les psychiatres. On demande à monsieur le pasteur de s'occuper de l'enfant ou à l'école de dimanche, de faire plus attention. Mais comment est-ce qu'on peut remédier si les racines, les causes ne sont pas soignées? Donc, Il arrive aussi qu'il y ait des parents qui sont de bonne foi, qui fonctionnent bien, qui ont un bon comportement dans le travail, qui arrivent à parler du Seigneur, et qui tout d'un coup, pour des raisons ou l'autre, vivent une très grande tension dans le travail. Des collègues insupportables, agressifs, ou un chef qui harcèle. On rapporte cette tension-là, à la maison. Voilà maintenant que c'est tentative de reconnexion. Voilà, ça recommence. On rapporte ces tensions-là, qui sont vécues dans le travail, on les rapporte dans la maison. Si on ne prend pas tout de suite l'arme de la prière et du jeûne, on va finir mal. Parce que Satan attaque. Satan est redoutable. Alors, il faut faire attention. On ne peut pas rapporter dans la maison quelque chose qui va la détruire. Quand quelque chose a été mal vécu dans la journée, cette chose-là n'a pas le droit de venir pourrir la famille. Il faut absolument prendre des armes spirituelles. Alors, combien de fois on n'a pas compris que c'était urgent de les prendre? Et parfois on les prend trop tard, ou on demande aux autres de prier pour nous. Mais ce n'est pas d'abord aux autres de prier, c'est de se retirer dans la chambre, de prier, de supplier le Seigneur, se mettre à genoux, se réveiller à nous, s'il faut. Crier au secours au Seigneur. Maintes fois. Alors on voit, Dieu bénit la foi. J'ai été délégué syndical rouge, donc dans un milieu ouvrier communiste, et c'était le seul syndicat. J'étais délégué, et lors d'une grande réunion des délégués de base, d'état d'entreprise de construction métallique, nous étions 300-400, il y avait trois papes sur l'estrade, trois hommes qui dirigeaient le syndicat, Fédération Générale des Travailleurs Belges, et ils parlaient surtout des grandes usines, ils parlaient des grèves, et naturellement, c'était clair. Moi, je sentais que c'était le Parti Socialiste derrière, les communistes, qui avaient décidé de contredire le gouvernement présent et qui voulaient animer la masse ouvrière pour manifester. Or, le syndicat a été fait pour défendre les intérêts des ouvriers et défendre la classe ouvrière. Ce n'est pas d'abord pour faire des manœuvres politiques de destruction sociale, de destruction d'un gouvernement démocratique. Et pourtant, ça se fait dans toutes les tendances politiques. Chacun utilise ses syndicats et ses armées, ses multitudes, pour s'animer, pour les agiter, pour les influencer. Et j'avais remarqué ça, et quand ils ont eu fini tout leur discours, j'ai demandé, puisqu'il y avait beaucoup de chômeurs, déjà à cette époque-là, en 1980, j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé à l'État de donner une allocation pour la femme au foyer, pour qu'elle reste à la maison, en tout cas pour celles qui veulent, et qu'elles s'occupent de leurs enfants, et ainsi un certain nombre d'hommes auront du travail. Et certaines femmes ne seront pas obligées d'aller travailler parce qu'elles n'ont vraiment pas envie d'y aller. Elles ont assez de boulot à la maison. Je dis tout cela et je pense que dans la masse des délégués syndicaux qui étaient là, la plupart pensaient comme moi. Je le pense, c'était des braves gens, des gens de la base. J'avais osé dire quelque chose qui était de trop devant ces trois papes. Alors ils ont ri, ils sont marrés, et puis ils m'ont dit, mon cher monsieur, nous dans la pensée marxiste, nous avons décidé, et nous sommes arrivés à persuader les autres partis politiques, sans qu'ils se rendent trop combien compte de l'enjeu, de supprimer les trois cas. Nous avons travaillé depuis des dizaines d'années à supprimer les trois cas. Après donc la guerre de 40-45, ils ont commencé dans ce travail. Puisqu'ils n'étaient pas arrivés à établir un gouvernement stalinien, ce que Staline incitait les partis rouges à faire, ils n'étaient pas arrivés. La droite avait résisté, la police avait résisté, une masse de la population avait résisté. Eh bien, pratiquement, ils cherchaient autrement à contourner cet échec. Il visait la famille, supprimer les trois cas. Cas, Kindern, la femme n'a plus besoin de faire d'enfant. Deux, Kirche, elle n'a plus besoin d'aller à l'église et aux réunions avec M. le curé ou M. le pasteur, elle n'a plus besoin de prier. Et puis, Köken, la cuisine. Donc on supprime le repas en commun, on mange tous au self, on va tous manger à droite et gauche, on n'a plus de cohésion familiale, on ne se voit plus, on ne se parle plus, il n'y a plus la structure du papa, de la maman et des enfants. Évidemment, parce que ça se vit à table. Et c'est là que ça se retransmet. Prenez toutes les images dans la Bible de Dieu avec son peuple élu, c'est à table. Et finalement, nous serons à table avec le Seigneur. Hein? Donc c'est là que se met en œuvre la relation dans une famille, à la table. La deuxième chose, éviter de faire avoir des enfants. Bien sûr, donc, tous les moyens préservatifs ou autres sont venus, le commerce aidant, mais ce qu'il y a, l'avortement. Et le troisième point, c'était Kirche. Plus d'influence des curés, ni des pasteurs, ni de quoi que ce soit, ni de la Bible, ni rien du tout. Parce que la femme est toujours occupée, il court tout le temps, et on a promis un niveau de vie, meilleur. Et j'ai entendu dire ceci, nous arriverons à une société de loisirs où nous travaillerons 3 jours, par 3 heures par jour. Nous ne sommes pas nés pour travailler. Nous ne sommes pas nés pour souffrir dans le travail. Regardez dans Genèse au chapitre 1 et 2. Hein. Vous avez compris ce qui était visé. Et on a essayé de faire cela. On a multiplié les loisirs, les centres sportifs, toutes les activités de loisirs en Occident. Mais on a fait travailler les petits Chinois, les Vietnamiens, les gens du Bangladesh,
les Africains,
comme des esclaves. Pour nous, pour avoir l'illusion qu'on était des hommes libérés, qui n'étions plus sous la sanction divine d'un travail pénible et d'une femme qui accouche dans la douleur, etc., etc. Regardez le schéma de vie qui a été proposé, mais aux dépens de qui ? Aux dépens d'une masse de gens invraisemblables qui ont souffert depuis lors et qui souffrent encore.
Et les résultats ?
Les résultats, c'est que maintenant, en plus, nos familles sont désagrégées, la structure familiale et les enfants, il y a des générations d'enfants perdus qui ne savent pas où ils vont. Et comme il n'y a plus de structure, comme on ne sait pas ce que c'est qu'être un homme, il n'y a pas de modèle paternel clair, on ne sait pas clairement ce que c'est qu'un modèle de femme, on ne sait pas ce que c'est être femme réellement, eh bien il est normal qu'on choisisse le couple, l'être et le sexe qu'on doit avoir. Le genre qu'on doit avoir. Il est normal qu'on puisse se faire transsexuer, il est normal qu'on puisse changer. Hein? Changer dans un sens et puis dans l'autre. Donc on arrive à une confusion en Occident telle que tous les pots sont cassés. La vaisselle est cassée. Pour moi, pour recoller tout ça, ce n'est pas facile. Donc les couples ont souffert d'une idéologie pernicieuse qui a cherché à détruire l'Occident. Pourquoi fallait-il détruire la famille ? Parce que la famille retransmettait, selon les principes marxistes, les pensées traditionnelles, dites de droite, conservatrices, qui arrangeaient les riches, les papes et les curés. Si on détruit la famille, il n'y a plus cette transmission, et donc la classe riche, noble, la classe possédante s'écroule, puisqu'il n'y a plus personne pour la soutenir. C'était l'enjeu, c'est ça, contourner l'échec du stalinisme par des lois néo-marxistes qui permettent de détruire la culture, je dirais classique, la culture dite bourgeoise, dite chrétienne aussi, judéo-chrétienne, pour amener les gens à une opposition délibérée à tout principe religieux, tout principe chrétien. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui n'est pas facile Il y a des gens qui n'étaient pas marxistes, qui ont été libertins, etc. Il y en a toujours eu et qui aimaient ça aussi. Il faut dire, ils ont adhéré directement à ça. Il fallait bien se rattraper de toutes les années de privation de la guerre 40-45 et 14-18. Il fallait se libérer de tout ça, de tous les jougs, et voilà. Mais 68, il est interdit d'interdire. Donc, vous voyez, nous sommes là-dedans, et aujourd'hui, construire une église avec des principes religieux et des principes bibliques honnêtes et sérieux, basés sur la Bible, c'est un défi quasiment insupportable pour la société. La société ne peut guère aimer ça. Pourtant, la société a besoin de nous. Souvent. Alors, j'ai pensé, pour vous donner un exemple de renouveau spirituel, parce que je pense qu'il faut un renouveau spirituel en Occident, devant tout ça. Parce que nos églises, les membres de nos églises ont été touchés par tout ça, par cette culture. Tout ça s'est imprégné en nous. Il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup se repentir et méditer à parole de Dieu, prier pour échapper à tout ça. Parce que c'est diffus, c'est à l'état latent. C'est mieux que le coronavirus pour nous perdre. Alors, j'ai pensé à... On pouvait lire Néhémie, au chapitre 1. Je vous invite à aller dans Néhémie. Vous me direz pourquoi. Mais vous allez voir pourquoi. Parce qu'il s'agit d'un renouveau spirituel. Et je m'écarte de la situation d'aujourd'hui, exprès. Je prends de la distance, je prends un moment de l'histoire du peuple juif, de manière à vous montrer comment s'est comporté un homme devant un désastre qui avait touché son peuple. Chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, donc c'est en Iran, ça, c'est une capitale de l'Empire perse. Hein. Il y avait Persépolis et Suse. Suivant l'été et l'hiver, c'était une capitale ou l'autre qui fonctionnait pour toute la cour royale, impériale. Quand j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Donc nous sommes en moins 458. Et la déportation a eu lieu en 605, 603 et 598. Donc 598, vous voyez, il y a 140 ans quasiment. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, alors, je pense que toute civilisation, tôt ou tard, est disparue. Toute civilisation s'est écroulée. Les plus grandes civilisations se sont écroulées. Et nous croyons que la nôtre ne s'écroulera pas. Je ne suis pas certain. C'est un leurre. Je pense que nous avons tous, tôt ou tard, la même sanction. Tellement l'orgueil nous a monté à la tête, tellement on s'est moqué de Dieu, la civilisation disparaît. Et on recommence à zéro. C'est cyclique. C'est l'effet du péché. Le péché est dévastateur. Il n'y a même pas besoin de Dieu. Le péché est dévastateur, il nous emmène à notre perte. Et donc, c'est ce qui était arrivé pour Israël. Verset 5. Je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs et les enfants d'Israël. Regardez bien comment Néhémie s'adresse à Dieu. Dieu grand et redoutable. Nous, c'est toujours Dieu d'amour. Oui, il est amour. Mais n'oublions pas ce qu'il est dans la Bible. Grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Et si on se moque de lui, alors? Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Donc, Dieu est vivant, c'est une personne, et il voit tout, il sait tout. Néhémie en a conscience. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse. Il sait que la prière est entendue, la prière du croyant est entendue. Et nous ? Voilà les racines de renouveau spirituel pour nous, dans une civilisation comme je vous l'ai décrite juste avant. Et qu'est-ce qu'il a mis ? Que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. C'est pas 5 minutes de temps en temps. Il est persistant de cette prière. Pour tes serviteurs et les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous, aujourd'hui, nous avons à confesser les péchés de l'Occident, nous avons à confesser les péchés de notre peuple et les nôtres avec. Nous avons tout à déposer et nous devons jour et nuit parler à Dieu. Jour et nuit parler à Dieu. Remettre la situation à Dieu. Parce qu'elle est inextricable. Nous n'avons plus le pouvoir de la résoudre. Les hommes politiques le savent bien. Et beaucoup de gens déjà le sentent, qu'il n'y a plus moyen de faire confiance à eux. Donc, il faut se tourner vers le Seigneur. Verset 7. « Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Nous t'avons offensé. » Donc, le sens de la transgression. Mais nous savons bien que dans le psaume 32, David dit que Dieu absout nos transgressions. Il peut nous pardonner. Il peut nous justifier. C'est ça. C'est pour ça qu'il parle à Dieu. C'est le principe de la Bible. C'est qu'on peut s'adresser à Dieu et qu'on peut être pardonné. Et qu'on peut redémarrer. On peut recommencer grâce à sa miséricorde. Parce que c'est un père. Verset 7. Nous t'avons enfoncé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. Les 10 commandements. Si chacun de nous savait déjà ce que c'est que les 10 commandements et essayait de les mettre en pratique, il se rendrait compte qu'il a besoin de se repentir et d'accepter Jésus dans sa vie. C'est la base. La loi amène à Jésus. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Ça, on trouve ça dans Deutéronome, au chapitre 28. C'est un livre de Moïse, le 5e livre de la Bible. Et si nous sommes en moins 458, à l'époque où Néhémie prie, le Deutéronome a été écrit en 1420-1430 avant Jésus. Donc, regardez bien, il y a presque 1000 ans de distance. Mais cet homme-là connaît la Bible. Et il sait que Dieu a dit des choses qu'il faut prendre au sérieux. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Effectivement, Néhémie va être l'objet de la compassion du roi, Artaxerxès, au chapitre 2, vous pouvez lire, parce qu'il craque, il n'aurait pas dû, il ne pouvait pas craquer, il était punissable. Mais il craque, il n'en peut plus, il est malheureux, l'empereur l'aime bien, Artaxerxès, et le renvoie avec 43 000 hommes et femmes pour reconstruire, aux frais d'Artaxerxès, reconstruire les murailles et le temple de Jérusalem. Ensuite, il enverra un autre homme, qui est un prêtre, Esdras. Donc il y a l'autre livre Esdras. Ça se passe à peu près de la même façon. C'est Dieu qui a transformé le cœur du roi de Perse, qui n'était pas un petit rigolo, évidemment. Alors, Dieu est capable de changer le cœur. Dieu est capable de conduire l'histoire. Dieu est capable de renouveler, de redonner une chance à celui qui reconnaît qu'il a péché, qu'il a offensé Dieu. Parce que Dieu n'est pas sadique, en fait. C'est plutôt l'homme qui est sadique vis-à-vis de l'homme dans son péché. Verset 10. « Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Donc, en référence à la sortie d'Égypte avec Moïse. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. » Vous voyez, chers amis, Les vrais serviteurs, les vraies personnes qui aiment le Seigneur Jésus, qui veulent obéir à Dieu, ont une forme de déférence et ils ont une crainte. C'est de ne plus être dans la bonne relation avec Dieu. C'est pas qu'ils ont la crainte de l'enfer, mais ils ne veulent pas être hors de la communion avec Dieu. Ils ne veulent pas être hors de la bénédiction. Ils ne veulent pas être hors de l'amour avec, partagé avec Dieu. Tout ça, j'en ai parlé dans les messages précédents. Alors voilà ce qui est dit dans la fin de ce verset 11. « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. » Il servait le vin à table, à l'empereur. À cette époque-là, l'empire était immense. Jusqu'aux confins de l'Éthiopie, jusqu'à l'Inde, etc., jusqu'à la Grèce, c'était un très grand empire. Au mois de Nisan, chapitre 2, la 20e année du roi Taxercès, comme le vin était devant lui, je pris le vin, je l'offris au roi. Au mois de Nisan, c'est avril. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. On n'avait pas le droit. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Ben, un chagrin d'amour, quoi. Mais brave homme, avec de la compassion pour Néhémie. Je fus saisi d'une grande crainte, ça y est, il panique. Les amis, nous avons trop souvent des paniques devant les hommes, devant les autorités. Trop d'autres de panique. Nous écoutons trop nos tremblements, nos peurs, nos craintes. Il faut se reposer sur le Seigneur. Il faut se reposer sur le Seigneur. C'est quelque chose de vital pour marcher par la foi. C'est pas qu'on se moque des humains, c'est qu'on n'a pas cette crainte des humains que beaucoup d'autres ont. Parce qu'on a le Seigneur qui est vivant entre eux et nous. Je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage? Il craque là. Cette fois-ci, il s'est passé, hein. Ça y est. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Au moment, en pleine conversation, il avait l'habitude de prier, il avait cette connexion avec Dieu. Je priais le Dieu des cieux, oulala. Là, il dépasse sa peur, il retombe dans la foi. Et quand il retombe dans le domaine de la foi, de la communion, tentative de reconnexion, pas facile. C'est... Il faudrait qu'elle arrête Internet à l'étage. Il faudrait qu'elle arrête Internet, c'est pas facile autrement.
Ça se remet.
Oui, voilà, ça s'est remis. Mais il faudrait qu'elle arrête Internet. Que demandes-tu? Je priais Dieu des cieux. Donc la relation avec Dieu est privilégiée, vous voyez? Elle est plus importante que la relation avec le roi, qui est pourtant un maître tout puissant. Je répondis au roi, si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, donc en Israël, vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Le roi avait déjà dit oui, sans le dire. Allez, t'es parti pour combien de temps? Il put au roi de me laisser partir, je lui fixai un temps. Puis je lui dis, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et vous voyez, Dieu agit dans le cœur même de gens qui sont incroyants, de gens même inconvertis, pour favoriser le croyant qui a l'audace de se reposer effectivement dans son âme et dans son cœur sur le Dieu vivant. Et aujourd'hui, dans notre civilisation d'Occident, nous sommes dans cette situation. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous chrétiens, que de nous adresser à notre Dieu vivant, de confesser les péchés de toutes nos familles, de toute notre région, de nos pays, parce qu'on les voit, et c'est une impasse dans laquelle on va tous se perdre, on va encore tomber plus bas et on crie au secours auprès de Dieu pour qu'il nous secoure. Et comment Dieu fera-t-il qu'on en sorte? Nous ne le savons pas. Mais ce qu'il y a, nous déposons notre cœur, notre foi au Seigneur, et le Seigneur dirige les occasions, dirige les événements pour donner une solution. Et c'est là qu'on apprend à être humble et tout petit. On apprend à être dans les mains de Dieu. J'en finis donc avec Jean. Je finis cet enseignement aujourd'hui. Jean, quand vous avez cette belle parole dans Jean chapitre 10, avec le bon berger, voici Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. » C'était le cas de Néhémie. Ça peut être le cas de chacun de nous qui écoutons, qui partageons la même foi. Et de ceux peut-être qui, dans une heure, ou dans deux heures, ou dans deux jours, ont la même foi que nous. Notre foi n'est pas de la bigoterie. C'est une foi envers le Créateur du monde, le Dieu Tout-Puissant, et qui a parlé par ses prophètes et par Jésus. Alors, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, donc Artaxerxès, que les dirigeants de l'Europe, que Trump, que Poutine, etc., le président de la Chine, etc. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça, c'est une conviction, évidemment, qui fonde la vraie vie chrétienne et qui peut faire redémarrer des vraies familles chrétiennes, des vrais couples chrétiens et des enfants qui reconnaissent ça. Ils savent très bien qu'à côté, ça n'en vaut pas la peine. Mais ce n'est pas de la religion à l'étiquette, ce n'est pas de la religion par des traditions, c'est une relation profonde, intime, et qui se sent, les enfants voient tout, sentent tout, ils voient si on vit de Dieu. Et nos enfants, nos jeunes, ont besoin de voir des adultes qui sont des modèles de foi, qui vivent de Dieu humblement, humblement, en dépendant de lui. Voilà aujourd'hui le message que je vais vous donner. Le renouveau spirituel de nos vies, de nos familles, parce que nous sommes bien bas, nous sommes bien loin, les amis. Et il faut beaucoup, beaucoup de foi aujourd'hui pour espérer un grand changement que seul Dieu peut donner. Seul Dieu pourra le faire, parce que nous avons été trop loin. Beaucoup trop loin, dans l'iniquité. Il est dans le péché. Quel que soit notre degré de complicité, nous avons été dans le péché et nous le sommes. Et nous avons tous besoin de nous mettre devant le Seigneur humblement et de prier comme Néhémie. Rappelez-vous ce que Néhémie a dit, relisez les versets, vous verrez que ça vaut la peine, faites les vôtres et vous verrez que votre vie sera complètement transformée par le Seigneur. Merci d'avance pour tout ce que vous vivrez. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous accorde la paix et la joie. À demain à 10h15. Merci.